France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Proposer des pistes pour sortir de la crise par le haut, c'est l'ambition du dernier ouvrage de Patrick Artus, coécrit avec Olivier Pastré. L'économie post-Covid, c'est son titre, est sorti au début du mois chez Fayard. Au micro de Marguerite Caton, Patrick Artus nous livre son diagnostic et ses remèdes.
D'abord, il y a un aspect de court terme, parce que pendant clairement plusieurs mois, les économies vont fonctionner de façon assez bizarre, nous allons vivre de façon assez bizarre. Mais là, on se pose la question de l'après. Un des problèmes essentiels de l'après, c'est que chaque récession détruit de la croissance de long terme. Ce qui n'est pas complètement évident, parce qu'on pourrait avoir une thèse optimiste de type schumpeterienne, en disant dans une récession, les mauvaises entreprises disparaissent et les emplois vont dans les meilleurs. Et donc effectivement, les récessions fabriqueraient de la croissance. Cela étant, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les récessions détruisent de la croissance, pour des raisons qui sont assez simples. On investit moins, donc on a moins de capital. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi et donc elles perdent une partie de leurs compétences, ce qu'on appelle le capital humain. Et puis cette fois-ci, quelque chose qui est supplémentaire et qui est un facteur aggravant, qui est que on va voir une très grande déformation de la structure sectorielle de l'économie. Il y a un certain nombre de secteurs dont on sait ou dont on pense qu'ils vont aller durablement mal.
L'automobile, le transport aérien,
l'aéronautique, la distribution traditionnelle parce qu'on achète en ligne, tout ce qui est bureau puisqu'on va travailler plus à la maison. Et puis, il y a des secteurs qui vont bien, tout ce qui est services informatiques, tout ce qui est pharmacie, santé, sécurité. Simplement, transporter des centaines de milliers de salariés des secteurs qui vont mal vers les secteurs qui vont bien, c'est extrêmement difficile. Pendant assez longtemps, il y a des personnes dont les compétences ne sont plus adaptées aux emplois qui se créent. Et ça, ça tue de la croissance aussi. Donc, on a un problème global qui est que, très probablement, on va avoir durablement moins de croissance que ce qu'on aurait eu sans cette crise.
L'inquiétude aujourd'hui, c'est la situation des entreprises et spécialement des PME, car toutes sont en train de s'endetter massivement pour passer la crise. Qu'est-ce qu'il leur faut d'urgence ?
Cette crise pose des questions qu'on aurait pu se poser avant. C'est-à-dire que les PME françaises, particulièrement, manquent de fonds propres. Elles sont trop financées par le crédit et pas assez par les fonds propres. Et une des raisons, c'est que les Français n'épargnent pas en fonds propres. D'une part parce que les Français ont une très forte demande de sécurité dans leur épargne, donc ils préfèrent acheter des obligations des États ou même en ce moment garder de leur argent sous forme de dépôt. Et puis parce que les règles des institutions financières, par exemple la réglementation des assureurs, n'est pas du tout favorable au fait que des assureurs financent les PME en fonds propres. C'est même carrément découragé par la réglementation.
Le moins d'activité risquée, si possible.
Voilà, toujours avec la même idée qu'il faut préserver l'épargnant. Simplement, si on préserve considérablement l'épargnant, plus personne ne prête d'investir en fonds propres dans les PME et on a des PME qui sont fragilisées. Et simplement, c'est compliqué comme dossier parce que le régulateur, lui, dit « moi, mon travail, c'est de protéger l'épargnant ». Évidemment, si l'épargnant n'achète que de la dette de l'État français, il va être mieux protégé que s'il achète des fonds propres de PME. Donc il faut convaincre les régulateurs qu'il faut aussi qu'ils réfléchissent au financement de l'économie.
On a besoin d'investisseurs solides, prêts à prendre des risques, vous nous l'avez dit. L'État ne peut pas s'y substituer entièrement. Où est-ce qu'on va dénicher ces oiseaux rares, alors, Patrick Artus ?
Moi, je crois beaucoup appelons ça le cofinancement ou la coordination entre l'État et les entreprises. Alors, on n'a pas beaucoup d'exemples encore. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle la DARPA, où des entreprises, y compris toutes petites, qui ont des projets technologiques nouveaux, peuvent se faire financer par l'État pour développer leurs projets. Et donc, moi, je pense que l'avenir, c'est ça. On a un exemple, par exemple, c'est ce qui va se faire dans la batterie électrique, ou ce qui se fait, hein, puisque l'État et des grandes entreprises coopèrent. Je crois qu'il va falloir mettre en place cette coopération, parce que le débat qu'on a sur les plans de relance, par exemple, c'est, certes, l'État vote beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il saura le dépenser ? L'État, il ne sait pas fabriquer une usine de batterie électrique. Par contre, PSA, c'est sans doute fabriquer une usine de batterie électrique, et donc, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, je crois que cette crise va pousser vers quelque chose qui est assez efficace et que pratiquent d'ailleurs la Chine, les États-Unis, le Japon, les pays nordiques depuis longtemps, qui est du copilotage de projets innovants, technologiques, entre l'État et les entreprises. Et là, on sait que l'argent public sera bien utilisé, et donc je crois que c'est ça la piste. Dans un monde de taux d'intérêt zéro, on a une chance considérable qu'il faut réaliser, c'est que un projet à 30 ans, un projet de la rénovation des bâtiments, La rénovation thermique des bâtiments ou énergétique des bâtiments, c'est
un des grands chantiers du plan de relance.
C'est un chantier gigantesque, mais c'est une rentabilité très exactement de 0,6% si vous le faites avec de l'argent privé. Donc même aujourd'hui, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun investisseur privé qui va se lancer là-dedans. Mais l'État, lui, peut s'endetter à zéro ou même à taux négatif. Donc l'État va pouvoir abonder finalement l'argent privé pour qu'on fasse quand même ces investissements de rentabilité faible. Et la rentabilité faible, c'est pas qu'elle est en soi faible, c'est qu'elle s'obtient dans le très très long terme.
Face aux pertes des entreprises que l'on estime à 40% pour l'année 2020 dans les pays de l'OCDE, il faut non seulement mobiliser le capital financier, on l'a dit, mais aussi mobiliser le capital humain. Concrètement, il va falloir travailler plus et plus longtemps, Patrick Artus, vous parlez d'un coup de rein productif.
La question, c'est que si on ne fait rien, nous n'allons jamais retrouver le niveau de production, donc de revenus, que nous aurions eu sans la crise. Alors on va retrouver probablement en 2022 ou en 2023 le niveau de revenus d'avant la crise, mais ce qui compte, c'est le niveau de revenus qu'on aurait eu sans la crise. Or, il va nous manquer en permanence probablement 4 ou 5% de revenus. Et ça, c'est un énorme problème, parce que si on ne fait rien, bah, on aura définitivement 5% de revenus en moins. Donc soit on baisse les salaires de 5% et on détruit pas d'emplois, soit on baisse pas les salaires et on va détruire 5% des emplois. Enfin, donc il y a un vrai sujet. Et donc évidemment, devant cette perte de production, la bonne solution, c'est de faire des gains de productivité pour redresser notre revenu. Alors ça peut s'envisager de toutes sortes de façons. Il y a une complication, évidemment, c'est qu'il y a... Bon, il y a les secteurs qui vont mal. Les secteurs qui vont mal, eux, n'ont pas besoin de produire plus. Et par contre, vous avez dès aujourd'hui des secteurs qui sont sous tension et qui n'arrivent pas à recruter. Donc, ce qu'il faut, c'est pas une approche globale. On peut pas décider au niveau national qu'on va travailler plus ou moins. Je pense que cette crise est l'occasion de fabriquer vraiment du dialogue social. C'est l'occasion de se rendre compte que toutes sortes de décisions ne pourront pas être prises au niveau global, ni même au niveau des branches, ni au niveau des régions, qu'il va falloir que les choses se discutent en entreprise.
Oui, vous préconisez les négociations d'accords de performance collective.
Alors, c'est pas forcément comme ça, parce que ça... Vous savez qu'encore aujourd'hui, ce qui est quand même absolument incroyable, aujourd'hui, en pleine crise, le problème numéro un mis en avant par les entreprises françaises, c'est qu'elles n'arrivent pas à embaucher. Et donc, ça pose un problème, bien sûr, sur notre système de formation et d'éducation.
Vous en parlez énormément. Oui. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une nouvelle réforme de la formation telle que vous l'envisagez? Enfin, ce sera quoi, la quatrième en 14 ans?
Il faut déjà que celle qui vient d'être mise en place soit effectivement mise en place, hein, parce que c'est pas encore le cas. Donc, attendons un petit peu. Mais ça pose pas que la question de la formation. C'est à nouveau dans une entreprise où on n'arrive pas à embaucher et où il y a un énorme carnet de commandes, on peut discuter avec les syndicats de travailler plus, d'allonger la durée du travail, de travailler autrement. Il va y avoir autant de situations que d'entreprises, donc on ne peut absolument pas avoir de règles globales.
Il est sûr qu'il y a des catégories de population qui sont plus touchées et qui sont les perdantes, notamment les jeunes.
Oui, alors, d'ailleurs, il y a un travail très intéressant, mais qui se continue du Conseil d'analyse économique pour essayer d'identifier précisément les populations qui sont en difficulté quand il y a une crise. On a des idées. On sait qu'il s'agit de jeunes, d'intermittents, d'intérimaires, de personnes qui avaient des CDD à répétition. Mais on n'avait pas une... Et on va avoir une mesure très objective de qui est en difficulté de façon assez précise. On n'a pas besoin, aujourd'hui, de donner de l'argent à tous les ménages. Il y a beaucoup de ménages dont le problème, c'est de ne pas avoir consommé. Donc 80% des Français, depuis le mois de mars, accumulent de l'épargne. Eux, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de visibilité et ils n'ont pas besoin d'argent. Et par contre, il y a 20% des Français, à peu près, hein, qui, eux, sont en difficulté, ont dépensé la petite épargne qu'ils avaient, se sont endettés.
Et derrière, il faudra mettre de l'aide sociale. Et alors, si on revient sur les jeunes, c'est quoi? C'est l'extension du RSA pour les 18-25 ans?
Alors, il y a plein d'idées. Il y a quelque chose qui s'appelle la garantie jeune, hein, qui est un programme assez intéressant parce qu'il est nécessairement associé à un projet d'éducation ou de formation. Il y a le RSA, plus aide personnalisée au logement. Le RSA commence à 25 ans. Bah, ça fait très longtemps, et on le dit dans le livre d'ailleurs, qu'on pense qu'un jeune inséré, alors peut-être pas tous les jeunes, mais tous les jeunes insérés dans des filières de formation, il faut les aider. Et même en dehors de cette crise, je veux dire, un étudiant qui bosse la nuit dans un bar, il n'est pas frais en amphi le jour, quoi.
Donc, bah, les bars sont fermés, cette question est réglée.
Oui, mais du coup, il n'a plus d'argent. Donc avant, il dormait en amphi et maintenant, il n'a plus d'argent. Et donc, s'il avait 300 ou 400 euros tous les mois versés par l'État pour financer ses études, il serait beaucoup plus disponible pour travailler, il pourrait faire des études plus longues. Donc je crois qu'on a tous à gagner collectivement ans à donner une espèce de revenu universel aux jeunes qui sont insérés dans un parcours de formation.
Vous avancez des solutions pragmatiques, mais vous appelez surtout à des décisions de rupture. C'est de l'audace dont nous avons besoin, Patrick Artus, et non pas de la prudence.
Oui, parce qu'on s'est dit avec mon co-auteur, avec Olivier Pastré, que ce qui allait probablement se faire, c'était de l'ajustement à la marge des systèmes existants. Mais si nous sommes définitivement avec 5% de PIB en moins, ce que je crois, il n'y aura pas de retour du tout à la normale. Et les systèmes existants seront absolument pas calibrés. Prenez le système de formation professionnelle. Mes estimations, c'est qu'1,5 million de Français vont devoir changer de métier. Notre système de formation professionnelle est aujourd'hui absolument incapable de gérer ça. Il est à des années-lumière d'être capable de gérer ça. Donc il faut le changer complètement. On va avoir des centaines de milliers de personnes, mais apparemment de l'ordre de 20% des Français en grande difficulté. Donc c'est pas en bricolant notre système de soutien à la pauvreté, il faut être imaginatif. Cette crise est un révélateur finalement de ce qui va pas dans nos systèmes sociaux.
Dernier problème, c'est les conflits qui ne vont cesser de s'amplifier. Vous êtes assez lucide ou pessimiste, je ne sais pas. Comment on fait pour réussir à tout changer en conservant une paix sociale?
De toute façon, le truc général, c'est que si on perd 5% de revenus, la bataille pour le revenu est plus sauvage qu'avant. Hein. Et cette bataille pour le revenu, elle va se faire entre les pays. Donc quand on nous parle de relocalisation, il faut quand même bien comprendre que la norme, ça va être la délocalisation. Donc sans incitation de l'État, on va avoir beaucoup de délocalisation, en particulier vers l'Europe centrale. Hein, ça ne sera pas la Chine, ça sera l'Europe centrale, le Maroc. Bon. Après, il va y avoir un problème, dans cette perte de revenus, salariés-entreprises. Les entreprises vont vouloir restaurer leur profitabilité le plus vite possible, et ça veut dire qu'elles vont repousser la perte de revenus sur les salariés. Et puis ensuite, parmi les salariés, il y aura les salariés plus protégés qui vont refuser des baisses de salaire, bien sûr, et les salariés moins protégés qui vont perdre leur emploi. De toute façon, quand on perd 5% du revenu, on ne peut que fabriquer des conflits. Et le pire, peut-être, c'est que comme les banques centrales interviennent dans tout ça en créant une montagne de monnaie, cette montagne de monnaie, elle va faire monter les cours boursiers, les prix de l'immobilier, on va avoir des bulles partout. Et donc vous aurez à la fois des salariés en difficulté et un énorme enrichissement patrimonial, ce qui est une source de conflits encore en plus.
Je vous remercie Patrick Artus. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Olivier Pastré, L'économie post-Covid, c'est chez Fayard.